Radio France Internationale, il est 6h30 à Paris, 5h30 à Kinshasa. Toute l'actualité africaine avec Martin Guez. Bonjour Martin.
Bonjour Mario Cazeneuve, bonjour à toutes et à tous. À la une, ces terribles inondations dans l'est de la République démocratique du Congo et ce bilan très lourd, au moins 110 morts. Au sud Kivu, dans le territoire de Fizi, un bilan encore provisoire. Le village de Kasaba, au bord du lac de Tanganyika, a été particulièrement touché. Nous ferons le point dès le début de cette édition avec Vincent Dublange. Tension entre l'Afrique du Sud et les États-Unis, alors qu'un premier groupe d'Afrikaners est attendu lundi à Washington. Les premiers à répondre à l'invitation de Donald Trump, qui leur offre l'asile. Nouveau point de friction avec Pretoria. Et ce n'est pas le seul, vous l'entendrez. Le Burundi tente d'éviter la fuite des médecins qui quittent massivement le pays depuis 2020. Le gouvernement prévoit plusieurs primes pour les inciter à rester exercer au Burundi. En Tunisie, cela fait désormais un an que l'avocate et chroniqueuse Sodia Damani est derrière les barreaux. Une affaire judiciaire symbolique de la répression de la liberté d'expression dans le pays. Et puis en sport, Souleymane Sissoko l'a fait, le natif de Dakar a finalement battu le lituanien Kavaliauskas à Malabo. Baptiste Leduc nous en parle dans le journal des sports dans quelques minutes. Ce bilan terrible en RDC, au moins 110 personnes sont mortes dans les inondations qui ont touché Kasaba, au sud Kivu, dans le territoire de Fizi. Drame qui s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi après d'abondantes chutes de pluie dans ce village qui borde le lac Tanganyika. Bonjour Vincent Dublange.
Bonjour.
Plus d'une centaine de morts dans ces intempéries et ce bilan qui pourrait encore grimper.
Oui, les pluies torrentielles ont provoqué la crue des rivières Kasaba et Bekia. Le village de Kasaba a donc été inondé, tout a été emporté, les maisons sur le passage des eaux, des éboulements ont été rapportés. Sami Kalonji est l'administrateur du territoire de Fizi. Ses équipes sont déployées sur le terrain.
Nous avons plus de 110 corps qui gisent au sol. 850 personnes sont sans abri, 150 maisons se sont écroulées et nous avons plus de 40 blessés suite à ces catastrophes naturelles. Le bilan reste provisoire car les recherches et le fuite continuent toujours.
Alors cette inondation meurtrière survient à Kasaba alors que la guerre se poursuit entre les forces armées de la RDC, les milices alliées et puis la FCM-23 soutenue par le Rwanda. Le président de la société civile locale du territoire de Fizi, Jacques Alimassi, demande aux belligérants de ne pas entraver la circulation des secours.
Cette population passe la nuit à la Belle Étoile, ils n'ont pas de vivres. C'est pourquoi nous avions plaidé encore auprès des autorités ou les parties prenantes qui interviennent dans les domaines de sécurité de pouvoir faciliter les couloirs humanitaires afin que les dons arrivent auprès de ces sinistrés.
Dans un communiqué, le gouvernement provincial du Sud Kivu, qui est basé à Uvira, indique qu'une équipe a été dépêchée en urgence à Kasaba pour évaluer la situation.
Merci Vincent Dublange, en direct de nos studios sur RFI, un peu plus au sud. Les intempéries ont fait 4 morts et près de 2000 sinistrés. À Kalemi, les rivières Loubouyé et Calais sont sorties de leur lit, inondant plusieurs quartiers de la ville, située dans la province du Tanganyika, au bord du lac, là aussi. La RDC toujours, où le gouvernement de Judith Suminwa vient d'officialiser le relancement, en tout cas, du projet de centrale hydroélectrique de Katende, à 75 km de Kananga, dans le Kasaï central. Un projet abandonné depuis 9 ans, faute de moyens, et qui reposait initialement sur des prêts étrangers. On en reparle dans une heure dans le journal de Nemo en Pisse. Les relations se tendent entre Pretoria et Washington, en cause la guerre commerciale de Donald Trump, mais aussi cette nouvelle décision de l'administration du président américain qui a décidé d'accueillir ce lundi un groupe d'Afrikaners, des descendants de colons européens que Donald Trump juge comme étant persécutés et à qui il offre l'asile, alors que l'Afrique du Sud a récemment voté une loi qui prévoit dans certains cas précis d'exproprier des propriétaires terriens blancs sans compensation. Dans le but de corriger l'inégale répartition des terres du pays, répartition héritée de l'apartheid. Autre point de friction entre les deux pays, la procédure lancée par Pretoria devant la Cour internationale de justice contre Israël, pays allié des États-Unis. Israël accusé de génocide dans la bande de Gaza par les Sud-Africains. Et pour Ronald Lamola, ministre sud-africain des Affaires étrangères, hors de question de revenir sur cette procédure, même dans le cadre de négociations avec Washington.
Non, cela ne peut en aucun cas être utilisé comme monnaie d'échange car c'est une question de principe. Cette procédure se fonde sur la Convention sur le génocide. Notre histoire est liée à celle de la Palestine et comme l'a dit Nelson Mandela, la lutte des Sud-Africains ne sera pas achevée tant que les Palestiniens ne seront pas libres eux aussi. L'Afrique du Sud est née de la solidarité. Nous ne serions pas libres sans toutes les personnes à travers le monde qui ont souffert et se sont levées en solidarité avec nous. Alors nous devons cela aux gens du monde entier. Nous assurer que les conventions onusiennes et la charte des Nations Unies sont protégées et défendues. Bien sûr, cela peut engendrer des choses douloureuses, mais cette douleur, c'est le prix que nous devons payer pour les populations du monde entier. Les principes ne peuvent pas être négociés.
Des propos recueillis par Zina Tansrod de la rédaction anglophone de RFI. RFI, 6h35, à Bujumbura, le Burundi, à la manœuvre pour retenir ses médecins alors que généralistes comme spécialistes désertent le pays depuis 2020 à destination de l'Europe ou des pays voisins. Alors pour retenir ses médecins, le gouvernement burundais a signé il y a 3 mois une ordonnance. Elle instaure une prime et des frais d'éloignement pour les professionnels de santé qui s'installeraient loin de Bujumbura. Des primes qui sont entrées en vigueur cette semaine, Esdras Dinkoumana.
Pour ceux qui ont déjà été payés selon son nouveau barème, un médecin généraliste qui touchait jusqu'ici quelques 500 000 francs burundais, environ 170 dollars, a vu son compte crédité en plus de frais de stabilisation fixés à 1 million de francs burundais, auxquels s'ajoutent des frais d'éloignement qui vont jusqu'à 500 000 pour les plus éloignés de Bujumbura. C'est jusqu'à 4 fois le salaire mensuel perçu jusqu'ici, et pour les spécialistes, le salaire est multiplié par 5 pour les plus éloignés de la capitale économique du pays. Cerise sur le gâteau, le gouvernement a promis que ces primes seront rétroactives à partir de juillet 2024. Un soulagement reconnaît un médecin syndicaliste. Cela devrait freiner l'expatriation des médecins burundais, mais il faut que la mesure soit étendue également aux médecins contractuels qui sont les plus nombreux selon lui. Il faudrait également que le gouvernement parvienne à stabiliser les prix. La vie est devenue invivable au Burundi, ajoute le syndicaliste. Le taux d'inflation flambe, il était pratiquement à 41% au mois de mars et 225% pour le loyer selon la Banque centrale. Un économiste burundais rappelle que le pays traverse une grave crise économique. Je ne vois pas comment le gouvernement pourra financer ses primes à moins d'utiliser la planche à billets. De quoi nourrir un peu plus une inflation galopante, dit-il.
Explication signée Esdras Dikoumana. Au Mali, Cheikh Oumar Doumbia, attaqué au couteau dans la nuit de vendredi à samedi à Bamako, figure montante de la société civile, fondateur du collectif des jeunes pour la démocratie. Il dénonce la dérive autoritaire de la transition. Cheikh Oumar Doumbia qui a pu échapper à ses assaillants. Un nouvel incident alors que les enlèvements ou tentatives d'enlèvement d'hommes politiques se multiplient dans le pays ces derniers jours. Direction la Tunisie à présent, où l'avocate Sonia Damani, mais aussi les journalistes Mourad Zeghidi et Borem Saïs sont désormais derrière les barreaux depuis 1 an, emprisonnés le 11 mai 2024. Les deux hommes condamnés à 8 mois de prison pour diffusion de fausses nouvelles sont encore en détention pour suspicion de blanchiment d'argent. Sonia Damani avait, elle, été condamnée à 1 an et demi de prison, là aussi pour diffusion de fausses nouvelles. Une affaire judiciaire symbolique de la répression des libertés d'expression et de la presse dans le pays. À Tunis, Lilia Blaise.
Pour les avocats et la famille du journaliste Mourad Zeghidi, les 1 an d'emprisonnement doivent être l'occasion de se remobiliser. Meriem Zeghidi est la sœur de ce journaliste.
On parle aux médias parce qu'on atteint les 365 jours et que ça commence à devenir inadmissible que Mourad continue à être en prison.
Elle attend une éventuelle remise en liberté provisoire après l'audience de son frère, prévue pour le 15 mai, dans le cadre d'une affaire de suspicion de blanchiment d'argent. Une libération que réclame aussi l'un de ses avocats, Razim Rabet.
Mourad garde espoir. Il garde espoir dans les institutions, dans la justice, malgré tout ce qu'on lui fait subir.
Sa collègue, l'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmeni, purge une peine de prison et reste actuellement poursuivie dans le cadre de 3 autres affaires concernant ses analyses politiques. Son avocat Shawki Tabib évoque une situation délicate.
L'espoir est toujours permis, mais le dossier est tributaire de la volonté du pouvoir politique actuel d'entamer une certaine ouverture politique ou pas.
Selon le syndicat des journalistes, 4 journalistes sont actuellement emprisonnés et près d'une 15aine font l'objet de poursuites judiciaires. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
La Tunisie toujours est la sortie du film « Les enfants rouges » du réalisateur Lotfi Achour. Repéré à Cannes en 2016 pour ses courts-métrages, le Tunisois explose avec son second long format. Les Enfants Rouges, qui racontent l'histoire de 2 jeunes bergers qui font paître leurs moutons à la frontière algérienne, a déjà remporté 15aine de prix internationaux. Ouda Ibrahim l'a vu pour nous.
Les Enfants Rouges se basent sur une histoire vraie, un drame qui s'est déroulé au nord-ouest de la Tunisie en 2015. 2 jeunes bergers sont capturés par des djihadistes dans une montagne où ils avaient l'habitude d'emmener leurs moutons paître. Le réalisateur fait plusieurs choix originaux, d'abord en tournant loin de la capitale, puis en filmant la majorité des scènes dans la nature et enfin en sélectionnant des comédiens non professionnels choisis dans les lycées de la région où s'est déroulé le drame. Dans sa volonté d'explorer la dimension intime de cette tragédie, racontée du point de vue d'un adolescent de 14 ans, Lotfi Achour alterne la beauté et la dureté, la poésie et la douleur, le réel et l'imaginaire. Le film opère des gros plans au plus près des visages de jeunes qui, face au tragique, quittent à jamais la douceur de l'enfance pour s'installer définitivement dans le monde des adultes.
Ouda Ibrahim pour Les Enfants Rouges. Enfin, c'était une figure majeure de l'art contemporain. Elle devait d'ailleurs être la prochaine curatrice, la prochaine commissaire de la Biennale de Venise en 2026. Koyakuo s'est éteinte à Bâle, en Suisse, à seulement 58 ans. La native de Douala a notamment dirigé le prestigieux musée d'art contemporain du Cap en Afrique du Sud. Son décès laisse un vide immense, a réagi la Biennale de Venise. RFI, 6h41, ici à Paris, l'info continue.
Afrique Matin sur RFI, Martin Guez.
Et à suivre dans le prochain quart d'heure, un petit tour du monde de l'actualité culturelle. Hommage à l'écrivain Amadou Kourama à Abidjan. Marine Janin nous emmène à l'exposition Inspiration Kourouma. Hommage aussi au grand intellectuel congolais Valentin-Yves Moudimbé, disparu à la fin du mois d'avril. À l'honneur de Chemin d'écriture et puis l'opéra, à l'honneur ensuite avec Maria Afonso pour 100% création. Et nous nous quitterons en musique avec le Ghanéen Djedoublay Ambolé. Mais pour l'heure, place au noblard. Baptiste Leduc monte sur le ring pour le journal des sports. Baptiste Leduc, que voilà. Bonjour Baptiste.
Bonjour Martin Guez.
Alors on parle de boxe bien sûr ce dimanche. La Guinée équatoriale et Malabo qui accueillait hier un grand combat. On vous en parle ces derniers jours sur RFI. Une demi-finale mondiale finalement remportée par Souleymane Sissoko.
Oui, le boxeur français né à Dakar, il l'a fait à 33 ans. Souleymane Sissoko a donc remporté sa demi-finale mondiale face au Lituanien Egidijus Kavalioskas dans la catégorie des poids welter. Le voilà désormais challenger officiel pour le titre WBC détenu par l'américain Mario Barrios. Malmené en début de combat, chutant deux fois même sous les coups de son adversaire, le Français a trouvé les ressources physiques et mentales pour s'imposer à l'unanimité des juges. À la fin du combat, Sissoko a confié ses sensations à Sofiane Amazian.
Je suis très content de cette victoire face à un très bon boxeur, un boxeur vaillant, un boxeur puissant. Il fallait faire preuve vraiment de résilience. J'ai été mis deux fois au tapis. Il fallait aller la chercher cette victoire. Comme on dit, une demi-finale, ça se gagne. Et vraiment, je suis allé au trip, donc je suis très content. J'ai été félicité par mon adversaire, par sa team. Le combat, il a vraiment tenu toutes ses promesses. Il faut être deux pour faire un beau combat. Donc, je tiens aussi à féliciter mon adversaire. Et maintenant, voilà, je suis content parce que le prochain combat, c'est pour la ceinture mondiale. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et j'ai hâte. Vraiment, merci à tous. Merci pour tous vos messages d'encouragement. Fallait aller la chercher et j'y suis allé. Voilà, en tout cas, merci beaucoup.
Souleymane Sissoko en est désormais à 18 victoires en autant de combats, dont 9 avant la limite.
Ah, c'est pas mal comme bilan. Là aussi, il va y avoir un beau combat. Balle au pied, cette fois-ci, un nouveau classico, le quatrième de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid.
Et il vaut de l'or en cette fin de saison de Liga espagnole. Les Blaugrana possèdent 4 longueurs d'avance sur leur rival historique. Une victoire leur assurerait quasiment le titre. Mais attention au contre-coup de l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. En face, le Real veut se consoler après une saison plus que moyenne. Son entraîneur Carlo Ancelotti pourrait quitter le navire en fin de saison. Malgré tout, le coach italien restera attaché à vie au club madrilène.
La luna de miel comme entraîneur.
Ma lune de miel avec le Real en tant qu'entraîneur est finie? Je ne sais pas. Je pense au contraire qu'elle se poursuit. C'est comme dans toute relation amoureuse. Il y a beaucoup de passion au début, mais quand ça se termine, plein de facteurs vous affectent. Ma lune de miel avec le Real durera jusqu'au dernier jour de ma vie. Xavi Alonso pour me remplacer? J'ai lu qu'il quitte le Bayern Leverkusen. Il y a fait un travail formidable. Toutes les portes sont ouvertes car il a prouvé qu'il faisait partie des meilleurs entraîneurs au monde.
FC Barcelone, Real Madrid, coup d'envoi, 14h15, temps universel.
Voilà, il paraît que les histoires d'amour finissent mal en général. Football toujours, mais les pieds dans le sable, Baptiste. La Coupe du Monde de Beach Soccer qui se déroule aux Seychelles et l'aventure qui s'arrête finalement pour le Sénégal.
Comme il y a 4 ans, les Lions sont éliminés aux portes de la finale. Comme il y a 4 ans, sur le score de 5-2, mais cette fois c'était face à la Biélorussie. Grande déception pour les Sénégalais qui se voyaient jouer pour le titre. Mais tout n'est pas terminé, il y a un dernier match à jouer, celui pour la 3e place. La médaille de bronze ce dimanche à 14h temps universel contre le Portugal. Objectif, la victoire pour faire mieux qu'il y a 4 ans.
Baptiste Leduc pour le journal des sports. Merci Baptiste, on vous retrouve dans une heure pour le prochain journal. Dimanche 11 mai 2025, Vladimir Poutine propose des négociations directes et sans conditions préalables avec l'Ukraine. Déclaration dans la soirée de samedi du président russe. Il propose aux Ukrainiens que les délégations se retrouvent à Istanbul en Turquie jeudi prochain. Pas de réaction à l'heure où l'on parle de Kiev ou de ses alliés occidentaux qui ont eux-mêmes mis sur la table un cessez-le-feu de 30 jours et des menaces de sanctions massives. L'Inde et le Pakistan s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur hier dans la journée. La tension demeure donc forte entre les deux pays. Depuis 5 jours, ils ont chacun multiplié les frappes à l'aide de missiles et de drones. Nous serons à Islamabad dans le prochain journal international. Les États-Unis et l'Iran qui tiennent ce dimanche une nouvelle série de pourparlers sur le programme nucléaire de Téhéran. Des discussions qui se dérouleront à Oman. Elles interviennent quelques jours avant la visite du président américain au Moyen-Orient. Donald Trump qui a réagi hier aux discussions en Suisse entre son secrétaire au Trésor et le vice-premier ministre chinois. Ils y abordent jusqu'à aujourd'hui les énormes hausses de droits de douane enclenchées par l'administration américaine et auxquelles Pékin a répondu. De grands progrès ont été accomplis, dit Donald Trump, sans davantage de détails. Et puis les sports, le football en France, Angers qui assure son maintien en Ligue 1, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco qui seront directement qualifiés en Ligue des Champions. Et puis la quatrième place, synonyme de barrage, qui se jouera entre Nice, Lille et Strasbourg. À noter en Espagne, on en parlait il y a quelques secondes avec Baptiste Leduc, c'est le Classico, Barcelone-Real Madrid, 14h15 temps universel. La plume de l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma, toujours bien vivante, le natif de Boundiali, dans le nord du pays, est mort il y a plus de 20 ans, mais celui qui a remporté les prestigieux prix Renaudot en France en l'an 2000, pour Allah n'est pas obligé, continue d'inspirer. À Abidjan, l'exposition Inspiration Kourouma lui rend hommage. Ça se passe à la Rotonde, au centre d'art historique du plateau, où tableaux, sculptures et bandes dessinées se mêlent pour honorer Amadou Kourouma. Reportage, Marine Janin.
Les visiteurs sont accueillis dans la rotonde par les yeux pénétrants d'Amadou Kourouma, un grand portrait de James Kokobi en noir et blanc qui représente l'écrivain, la tête posée sur sa main, fixant le spectateur du regard.
Dans le creux de la main, je crois qu'il disait, dans le creux de la main, on se repose et on apprend beaucoup. C'est un grand personnage pour moi. Kourouma fait partie du patrimoine culturel de Côte d'Ivoire. Quand vous approchez le portrait, là, il n'y a pas de peinture, c'est juste gratté, sur du papier noir, au couteau. Donc c'est un travail archéologique que j'ai fait.
En plus des photos d'archives, des coupures de journaux et d'extraits de ses textes, l'exposition met en scène une quinzaine d'œuvres présentées par un casting prestigieux, où figurent notamment les peintres Aboudia et Yanzi ou le sculpteur Salif Diabagaté. Les participants ont reçu des extraits de livres de Kourouma et ont été invités à s'en inspirer pour créer leurs propres œuvres. Pascal Conan, artiste plasticien, signe ainsi la toile Les couleurs des indépendances, en référence au premier roman de Kourouma, Les soleils des indépendances.
Ce livre fait quand même une lecture des moments et des temps coloniaux. Et donc dans la toile, il y a une grande répartition du bleu, du blanc et du rouge pour montrer la domination du pays colonisateur. Et puis ensuite, le jaune qui symbolise le soleil d'Afrique vient pour dire qu'en Afrique, il y a eu des gens qui sont battus. Nous, on a essayé quand même de résumer cela en images parce qu'on estime qu'une image vaut 1000 mots.
Il peut sembler paradoxal de rendre hommage à un écrivain avec une exposition d'art plastique, mais le directeur de la Rotonde, Yacouba Konaté, dit croire qu'aucune discipline ne peut vivre en autarcie.
Amadou Kourouma, c'est un ami. J'ai vu l'immense travail qu'il mettait pour construire ses textes, les produire, les peaufiner, vraiment. C'est un orfèvre. Donc, je me suis promis de faire un événement sur lui, puisque je suis, moi, une universitaire qui considère que les arts visuels ont un impact, une efficacité de communication plus forte que la littérature au sens ordinaire du terme.
Une initiative saluée par la veuve de l'écrivain Christiane Kourouma, qui se réjouit de voir son œuvre toujours célébrée 22 ans après sa mort.
Je vis avec lui encore jour et nuit. Je lis encore tout ce qu'on a pu écrire sur lui. On m'en parle beaucoup. Pour moi, il est toujours là. Tout ce que je vois ici, toutes ces photos, je les connais par cœur.
L'exposition Inspiration Kourouma restera visible à la Rotonde jusqu'au 21 mai. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Et un reportage à réécouter sur notre site RFI.fr. Demain, nous serons entre Bangui et Zongo, ville jumelle seulement séparée par le fleuve Oubangui, où nous emmènera Rolstef Doumialeux. Un autre grand écrivain à l'honneur ce matin, le Congolais Valentin-Yves Moudimbe, mort aux États-Unis il y a quelques jours, à l'âge de 83 ans. Le natif de Likasi a enseigné dans les plus grandes universités américaines, lui qui a écrit des romans, des poèmes, mais aussi et surtout des essais philosophiques et théoriques sur le continent africain. Valentin-Yves Moudimbe, intellectuel de premier plan, Tirthankar Chanda, revient ce matin sur son œuvre dans Chemin d'écriture et notamment sur son essai L'invention de l'Afrique.
Au prisme du présent, l'expérience coloniale ne représente qu'un bref instant dans l'histoire africaine. Mais cet instant est aujourd'hui encore source de douleur et de controverse, puisqu'il engendra à tout le moins une nouvelle forme historique et ouvrit la voie à des discours d'un genre radicalement nouveau sur les traditions et les cultures africaines.
C'est sur ces propos que s'ouvre le magistral « L'invention de l'Afrique » de Valentin Yves Moudimbé. Cet essai qui vient de paraître en traduction française est devenu un classique des études africaines. Les phrases d'ouverture donnent le ton du livre, campé à la fois dans la philosophie, la littérature, l'histoire des idées et l'histoire tout court. Bref, un livre d'une richesse exceptionnelle. Dans le premier volet de cette chronique, nous avions évoqué l'œuvre littéraire importante de Moudimbé, composée de poésie et de fiction. Des genres que l'auteur a abandonnés depuis qu'il s'est installé aux États-Unis dans les années 1980 pour se consacrer à l'écriture d'essais théoriques pour l'historien des lettres africaines Bernard Mouralis, qui fut le premier exégète des écrits de Moudimbé. Cet abandon du projet littéraire pose question. Bernard Mouralis.
On peut se demander si l'entrée dans cette carrière universitaire aux États-Unis n'a pas correspondu à un certain appauvrissement de la personne même de l'écrivain. À partir du moment où il était aux États-Unis, il essaie de répondre à la demande sociale américaine, du tissu universitaire américain. Il est apprécié, mais est-ce que ça n'a pas freiné la suite de son œuvre, qui est une grande œuvre?
L'invention de l'Afrique, publiée en anglais aux États-Unis, s'inscrit dans la suite des premiers essais de Moudimbé, parus en français dans les années 1970. Son sujet, l'ethnocentrisme colonial dans la construction des discours africanistes. Moudimbé évoque les récits coloniaux qui ont constitué l'Afrique comme le lieu par excellence de la négativité. L'autre grand thème du livre, c'est l'émergence du sujet africain autonome, seule garantie aux yeux de l'auteur d'une possible authenticité du savoir africaniste. Bernard Mouralis.
L'idée forte, l'invention de l'Afrique, c'est de porter une interrogation sur la validité des énoncés concernant l'Afrique. Pendant longtemps, quand même, l'Afrique a été vue à travers des énoncés souvent d'origine européenne, mais Moudimbé met en perspective plusieurs types d'énoncés. Il met les énoncés d'origine européenne, mais il met aussi les énoncés d'origine africaine. Par exemple, la négritude ou les énoncés sur l'africocentrisme. Moudimbé, au fond, estime qu'il n'y a que le sujet africain qui peut parler de son expérience.
De nombreux commentateurs ont souligné les similitudes entre l'approche de Moudimbé et la démarche d'un Édouard Saïd, l'auteur de l'orientalisme, qui a déconstruit les visées idéologiques dans les discours occidentaux sur l'Orient. Pour Bernard Mouralis, la similitude entre ces deux penseurs se trouve également dans la confiance qu'ils font à la subjectivité comme fondement des discours sur les sociétés. Bernard Mouralis.
Il y a des points communs, mais peut-être la marque propre à Moudimbé, c'est d'avoir insisté sur la restauration des droits du sujet. On a l'impression que chez ces deux grands esprits, l'analyse des énoncés ne suffisait pas. Ils ont voulu aller plus avant en eux-mêmes et ils ont produit l'un et l'autre de très belles autobiographies. Et là, on retrouve évidemment le sujet.
Ce topos du sujet, synonyme de l'humain, ponctue la réflexion de Moudimbé. Et si le sujet était l'antidote contre la déchirure, thème qui hante les pages des romans et des poésies de l'auteur de L'invention de l'Afrique.
Tirtan Karchanda pour Chemin d'écriture sur RFI. Les arts, décidément à l'honneur ce matin, direction l'opéra à présent. C'est l'un des plus beaux monuments de la capitale française, achevé en 1875 par l'architecte Charles Garnier. Le Palais Garnier fête cette année ses 150 ans. L'Opéra historique de Paris accueille pour l'occasion des galas et des expositions pour faire honneur à ce long héritage. Et à l'Opéra, il n'y a pas seulement que les chefs d'orchestre et les petits rats qui font vivre ce lieu mythique. Nous nous penchons ce matin sur les petites mains qui s'activent en coulisses. Direction l'atelier de décoration des costumes, c'est une grande pièce avec une mezzanine. C'est là qu'on peint, c'est là qu'on teinte, c'est là qu'on patine et qu'on à pièce les costumes portés par les artistes. Et c'est là qu'on croise Bernard Conan, qu'a rencontré Maria Afonso.
L'apprentissage, découverte, tentative, expérience, voilà. Donc ça reste toujours très heureux.
Autodidacte, Bernard Conan se dirigeait vers la mode. À 19 ans, il rencontre une compagnie qui monte des formes lyriques et qui cherche un costumier. Embarqué dans cette aventure, pour lui, c'est une découverte. Après un long parcours dans cette compagnie et quelques étapes intermédiaires, il frappe à l'Opéra de Paris et les portes s'ouvrent. Il y travaille depuis 30 ans, conscient du cadre exceptionnel de ce quotidien à part, mais avec des obligations tout autant.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes qui sont la sécurité. On a des activités très variées. À la teinture, il y a quand même de l'eau bouillante. on soude, donc il y a aussi la flamme, il y a quelques produits dangereux, donc on a des équipements qui sont utilisés, qui n'étaient peut-être pas le cas il y a 30 ans par exemple. On est très très sensibilisé à la sécurité, on est aussi très sensibilisé au budget. Il y a un cadre très strict en termes de temps, de planification et de mesure du travail vraiment, et de la production. Il y a beaucoup de services dans une maison comme l'Opéra, et on est quand même d'abord au service des ateliers de couture, c'est-à-dire que nous on travaille en amont, on teint les tissus, on les peint, on les imprime. Il y a un échange, on est très à l'écoute de leur temps de production, on doit répondre à des attentes. Et après aussi avec les autres services et aussi avec les artistes du ballet.
Pour Bernard Conant, la première contrainte, c'est le danseur, l'artiste. Et les éléments décoratifs du costume ne doivent pas être un poids.
Si on fait un bijou, on va faire attention d'utiliser des matériaux très légers. On ne va pas partir sur des grosses parures métalliques. Les choses peut-être les plus étonnantes, c'est de la corde de guitare qu'on a détournée, qui est un matériau très léger, très flexible, très facile, qui permet de créer des structures très aériennes. C'est un bijou de tête, on est vraiment dans la Renaissance italienne, puisque c'est Roméo et Juliette, avec des perles. Et une pointe qui est réalisée en corde de guitare. Ça aurait pu être de la corde à piano qui est extrêmement utilisée aussi. Et après, l'inventaire est impossible. Ça dépend vraiment des esthétiques de chaque spectacle. Nous, ici, à Garnier, on est quand même sur une boîte noire dans laquelle on envoie de la lumière. Effectivement, les éléments accrochent la lumière et se mettent à prendre vie, à briller. Après, c'est une question de proportion. Nous, on travaille effectivement sur la distance et sur la perception.
Retrouvez Bernard Conant, responsable de l'atelier décoration de costumes de l'Opéra de Paris sur RFI.fr, chronique 100% création et en podcast.
Et c'est bien noté. Merci Maria Afonso. Après la littérature, après la philosophie, après la danse, on termine notre tour de l'actualité culturelle en musique. Voici Djedouille Blé Embolé, choix musical des programmateurs de RFI, l'artiste ghanéen qui nous chante Wake Up Africa. That's right, man. Embolé's in the house, man. You know what time it is. I'm gonna tell him like it is, brother. Time is here, brother. The time has come to wake up Africa. The younger generation. The time has come to wake up Africa. They know that it's time. The time has come to wake up Africa. Now listen here, bro. African leaders, fuck up. Politicians, they fuck up. Judiciary, fuck up. Religious leaders, fuck up. Council of States, fuck up. House of Chiefs, fuck up. Africa, it's a crime scene. Oh, brother. Education, fuck up. Our culture, fuck up. Our language, fuck up. The food we eat, fuck up. Transportation, fuck up. Our roads, fuck up. This happens when educated fools are in control. Yeah. Now the spirit is with the younger generation, and they're gonna chase all the crazy bald heads out of town. Now listen, people. University degrees, fuck up. PhDs. Fuck up. Financial institutions. Fuck up. Police service. Fuck up. Military. Fuck up. Our media. Fuck up. Oh, Mother Africa will punish all of you. The time has come to wake up Africa. The time is now. The time has come to wake up Africa. Africa is wide awake. The time has come to wake up Africa. The new spirit of black unity. The time has come to wake up Africa. Yeah, the cockroaches. Time to go. How long are you going to promote this intellectual castration? Et Djedouille Blé Embolé qui réveille l'Afrique. Wake up Africa pour refermer cette édition d'Afrique Matin. Merci à Laurent Hérault, à la réalisation Vincent Dublonge, à la rédaction en chef. Lui est prêt à réveiller le continent, que dis-je, à réveiller la planète. Même Julien Coquel-Rouhem arrive dans 30 secondes pour RFI Matin.
Géopolitique. Plus d'un siècle après le début du mandat britannique sur la Palestine, le pays est depuis au cœur d'une rivalité entre juifs et arabes qui nourrit un conflit sans fin. L'attaque du Hamas contre Israël en octobre 2023 a intensifié la violence, renforçant la haine réciproque et constituant un obstacle majeur à une résolution pacifique. Quel avenir pour les Palestiniens ? Des spécialistes nous livrent le regard dans géopolitique proposé par Marie-France Chatin tout à l'heure à 17h10 TU. RFI.